Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La Bible est source d'espérance et elle nous enseigne la sagesse. Mais que nous apprend-elle au sujet du mariage? Et quelles devraient être dans ce cadre-là les relations entre les hommes et les femmes?
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le mariage.
Nous parlons donc du mariage, de cette relation privilégiée vécue entre un homme et une femme. Et avec Arnaud et Antoine, nous cherchons à comprendre ce que la Bible dit à ce sujet et quelles sont les leçons à en tirer pour aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Yann.
Bonjour à tous.
Nous avons vu jusqu'à présent les desseins de Dieu pour le mariage, l'idéal vers lequel nous devons tendre. Nous avons aussi vu qu'à cause du péché, nous avons du mal à atteindre cet idéal et nous pouvons malheureusement rencontrer des difficultés au sein de nos vies de couple. Nous avons ensuite réfléchi sur le problème de l'infidélité, des tentations dans les couples qui peuvent amener à l'adultère, et nous avons rappelé que l'infidélité offense profondément notre Dieu. Ceux qui pratiquent l'adultère seront exclus de ses promesses. Sur quel aspect de la vie de couple allons-nous discuter aujourd'hui?
Je pense qu'il est important de parler de la communication.
Et pourquoi?
Parce que pour entretenir de bonnes relations humaines, il faut bien communiquer avec sa femme ou son mari. Beaucoup de problèmes rencontrés dans les couples sont le résultat d'un manque de communication, et si ces difficultés persistent, d'autres problèmes plus graves encore peuvent s'ajouter.
Arnaud, la Bible parle-t-elle de la communication?
Oui, bien sûr. La Bible apporte des recommandations, mais aujourd'hui je me contenterai de lire quelques versets trouvés dans la lettre écrite par Jacques, le frère de Jésus. Il s'agit d'une mise en garde, d'un avertissement. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer Dieu, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi.
Ce sont des paroles percutantes, montrant que la langue est dangereuse. Pouvez-vous expliquer davantage le sens de ce texte?
Oui, ces paroles nous rappellent que ce que nous disons peut faire autant de mal à une personne que des gestes violents et brutaux. Et nous ne mesurons pas forcément la force des mots que nous utilisons. Ils peuvent blesser, détruire, être responsables de conséquences graves. Mais ce texte nous rappelle aussi que par nos paroles, nous pouvons faire beaucoup de bien, même si malheureusement, nous nous employons trop souvent à faire le contraire.
Mais qu'est-ce que Jacques dénonce lorsqu'il parle de la langue?
Il dénonce les mensonges, les insultes, les critiques, les paroles méprisantes, violentes, humiliantes, moqueuses, les paroles empreintes de haine, de colère ou d'amertume. Toutes ces pratiques peuvent faire du mal, tromper la confiance des autres et briser bien des relations humaines.
Mais quel est l'impact des mauvaises paroles dans un couple?
Lorsque l'on est marié, il est aisé de découvrir les défauts et les faiblesses de son conjoint et d'en éprouver de l'agacement. Aussi, le fait de se sentir à l'aise au sein d'une relation intime peut nous amener à bien moins maîtriser notre langue avec notre conjoint, ce que nous n'oserions pas forcément faire devant d'autres personnes. Ainsi, parfois, c'est à celle ou à celui que nous aimons le plus que nous disons les paroles les plus dures ou les plus blessantes. Et si ce type de communication persiste, le couple peut rapidement être en danger et aller jusqu'à la rupture.
Pouvez-vous nous donner des exemples concrets nous montrant si nous sommes tombés dans le piège de la mauvaise communication?
Arnaud a déjà cité toute une liste de pratiques dénonçant le mauvais emploi de la parole, mais je vais en rappeler quelques-unes. Est-ce que nous parlons à notre femme ou à notre mari comme s'il était un serviteur, un esclave, un enfant ou un animal? Est-ce que nous avons tendance à nous plaindre de notre mari ou de notre femme, à lui faire des reproches, à relever constamment ses défauts? Si tel est le cas, une mauvaise communication s'est établie. Et comment savoir s'il y a véritablement une mauvaise communication lorsque les disputes et les querelles deviennent régulières ou violentes, ou si notre conjoint se renferme parce qu'il se sent blessé, incompris ou dévalorisé? Et comment rechercher une bonne communication? En lisant la Bible qui nous enseigne comment véritablement aimer. Les paroles empreintes d'amour font du bien. Et il faut nous poser la question, est-ce que ce que je viens de dire ou ce que je vais dire va faire du bien?
Comment combattre le problème de la mauvaise communication? Et comment définir une bonne communication? La Bible dit-elle quelque chose?
Une bonne communication favorise l'épanouissement de l'autre. Par elle, on peut réconforter, encourager, faire du bien à sa femme ou à son mari. Mais je reviens à la lettre de Jacques, citée tout à l'heure, car il donne de bons conseils à ce sujet. Que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Nous devons apprendre à nous arrêter pour écouter notre femme ou notre mari. Pour le ou la comprendre, nous devons aussi mesurer la portée de nos paroles avant de les prononcer.
Oui, en effet. Mais il faut être réaliste. Il existera toujours des points sur lesquels un mari et sa femme auront des avis divergents. Le comportement de leur conjoint pourra aussi les contrarier. Et encore. Tout cela peut être la cause de querelles ou de déchaînements de passion. Il faut essayer de résoudre ces problèmes sans les fuir. Mais rappelons la question qui nous intéresse. Comment lutter contre une mauvaise communication?
Oui, et avez-vous une réponse à proposer?
Oui, devant chaque difficulté, chaque problème, il faut se souvenir des paroles de Jacques, que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère.
Mais c'est lorsque la tension monte qu'il est souvent difficile de mettre en pratique cette recommandation. Quand nos sentiments prennent dessus, et nous avons du mal à nous maîtriser.
Vous avez raison, et j'ai trois remarques à faire. Tout d'abord, il vaut mieux parler d'un problème dès qu'il commence à apparaître. Il est ainsi plus facile de l'aborder sereinement, dans la paix, et de mettre en pratique les paroles de Jacques. Ensuite, si une difficulté suscite des querelles, des paroles violentes ou blessantes, il est préférable d'en parler à un moment opportun, quand chacun est plus disposé à écouter l'autre et à réfléchir raisonnablement sur la situation. Enfin, pour le chrétien, l'esprit désire produire des fruits dans sa vie qui reflètent le caractère de Christ, dont l'une des qualités est la maîtrise de soi. Nous avons tellement besoin de maîtriser nos sentiments et nos paroles si nous voulons réussir nos mariages. Pour cela, nous devons prier l'Esprit de Dieu de nous aider à acquérir cette maîtrise de soi.
Remercions Arnaud et Antoine pour leur participation et reprendrons ces discussions la prochaine fois. Dans un instant, Jean-Marc va poursuivre ses méditations sur Christ et son amour pour l'Église. Mais d'abord, Hélène va lire dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27.
Que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par sa parole. Il a ainsi voulu faire paraître devant lui cette Église rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable.
Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul compare l'idéal du mariage à la relation d'amour qui existe entre Christ et l'Église. Et nous avons appris la dernière fois que Christ, dans son amour, désire embellir l'Église, c'est-à-dire conduire le croyant à une maturité de foi et de caractère. Ceci suscite la question : comment Christ embellit-il l'Église ? La réponse se trouve dans la phrase « par l'eau et par la parole ». Prenons aujourd'hui l'image de l'eau. Nous savons que l'eau sert, entre autres, à nettoyer des choses, à les rendre propres ou purs. Avec l'eau, nous pouvons nous laver afin d'enlever de nos corps la poussière et la transpiration de la journée. Avec l'eau, nous pouvons laver nos vêtements ou bien les aliments que nous allons manger. Il est vrai aussi que notre eau de boisson nettoie nos corps de certaines impuretés. Nous pouvons dire d'une chose qui a été lavée par l'eau, qu'elle est plus belle, plus pure. Dans la Bible, nous apprenons que Jésus-Christ a purifié de leurs péchés tous ceux qui croient en son nom. Nous commettons tous des fautes. Nous nous conduisons tous les jours d'une manière qui déçoit et offense Dieu. La Bible compare cet état de choses à un homme qui se salit, jour après jour, et qui, quoi qu'il fasse, n'arrive pas à se décrasser. Quand Dieu regarde la saleté de nos fautes, il n'aperçoit pas de beauté, et il ne peut non plus recevoir ceux qui sont impurs dans sa présence, si purs. Comment nous purifier de nos fautes devant Dieu? Selon la Bible, il n'y a qu'un seul moyen. Ce n'est pas quelque chose que nous puissions faire par nous-mêmes, soit en accomplissant des rites de purification, soit en accomplissant des actes de piété. Nous ne pouvons que nous tourner vers Christ. C'est lui qui nous lavera, qui nous purifiera de nos fautes et nous présentera devant Dieu, propres et resplendissants de beauté. Jésus-Christ peut faire cela parce qu'il a accompli à notre place, sur la croix, le sacrifice nécessaire pour obtenir de Dieu notre pardon. C'est pour cela que la Bible dit « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché ». Mais pourquoi le texte parle-t-il d'être purifié par l'eau? Dans les églises, nous avons l'habitude de baptiser les nouveaux chrétiens dans l'eau. Serait-ce cette eau du baptême qui nous purifierait de nos fautes? Non, le baptême et l'eau dont on se sert ne sont que des images très parlantes de l'œuvre purificatrice déjà accomplie dans nos vies par Jésus. L'eau nettoie tant de choses, et toutes les fois que nous y pensons, nous devons nous souvenir que spirituellement nous avons besoin d'être purifiés, non en nous lavant avec de l'eau, mais en faisant appel à Jésus et en croyant à son sacrifice sur la croix.
L'on peut parfois trouver de vieilles œuvres d'art cachées dans un grenier ou enterrées quelque part. Elles sont sales et couvertes de poussière, mais il est possible, en les nettoyant, de les restaurer et de leur rendre leur beauté originelle. De même, en nous purifiant du péché, Jésus-Christ désire faire de nous de nouvelles personnes et nous préparer à la gloire à venir. Quel amour!
Pour en apprendre davantage sur le mariage d'un point de vue biblique et sur l'amour de Dieu pour les siens, nous vous invitons à écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous garde dans son amour.